deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 Correspondance, premier épisode. Les textes que vous allez écouter sont inspirés par les tableaux de Nathalie Selle-Guillard. Ce ne sont pas des explications, pas des illustrations. Ce sont des échos, des correspondances proches ou lointaines à ces tableaux. C'est aussi du langage posé sur des images, elles-mêmes puisées dans la musique. Nathalie Selle-Guillard est artiste lyrique à l'opéra et aussi peintre. Écoutez ces textes et imaginez les tableaux dont ils sont l'écho. Écoutez parler ces images comme elles ont un instant résonné dans l'histoire de quelqu'un. Ophélie 1. Sur le tableau, des arbres merveilleux. Cheveux flottant dans l'eau, une femme étendue que regarde un poisson doré. Un échassier blanc, lui, regarde un arbre aux fruits rouges en bas et dorés vers la cime.
Naissance d'une sorcière, une nouvelle de Pascal Audouard, inspirée par Ophélie 1.
Au commencement était le Verbe, et Dieu était le Verbe, et le Verbe était Dieu, car du Verbe naissait toute chose. Et Dieu fit un rêve. Et dans son rêve, Dieu vit la terre et tous les corps célestes, autour et au-dessus de la terre. Et le lendemain, afin que son rêve prît forme, Dieu dit à haute voix le nom de toutes ces choses qu'il avait vues. Terre, soleil, étoiles et planètes. Et toutes ces choses furent parce qu'il les avait nommées. Et Dieu sépara les mers de la terre, et il demanda aux ténèbres de se retirer de la lumière. Et ce fut ainsi, parce qu'il l'avait dit. Et alors Dieu fit un autre rêve, et dans son rêve il y avait les créatures terrestres, et les poissons dans la mer et dans l'eau des rivières. Il y avait les oiseaux dans le ciel, et le règne végétal couvrait la surface de la terre. Il vit que toutes ces choses étaient bonnes, alors il les nomma, et elles furent. Et le monde fut plein de vie, parce qu'il l'avait dit, et de ce jour il fut le créateur. Et au milieu de tout cela, il planta l'arbre de la connaissance, pour que rien ne fût perdu des mystères de ce monde. Et de l'arbre de la connaissance naquit la femme vraie, celle qui porterait en son sein les secrets de la création. Et dans la nuit, Dieu visita en rêve la femme vraie, et lui enseigna tout ce qu'il convenait de savoir sur les forces de l'univers. Il lui fit savoir comment, par le verbe, faire prendre corps à l'idée, de façon qu'elle fût réalité. Et elle sut tout de la circulation du feu dans les terres. Et elle connut par lui ce que portent d'énergie les corps célestes. Et elle sut tout des herbes qui rendent la vie, et tout aussi de celle qui la retire. Et il lui donna les secrets du sel de la terre et de l'eau céleste, afin qu'elle en fît bon usage dans sa pratique. Dieu lui enseigna le Verbe qui parle à toutes ses créatures, et elle sut comment les convier à servir ses desseins. Et il lui fit don de l'art de divination, de façon qu'elle pût voir ce qui n'était pas encore. Et au matin, quand Dieu eut fini son enseignement, quand la femme vraie fut sorcière, il la chassa du paradis, afin que par elle s'accomplisse le destin des hommes.
Ophélie II. Sur le tableau, c'est l'échassier blanc qui est regardé par le poisson doré et la femme assise sur la berge avec un pied dans l'eau. L'oiseau tient dans son bec le plus gros des fruits d'or.
Ce que Kevin croit. Une nouvelle de Frédéric Rossi, inspirée par l'œuvre Ophélie II. Aujourd'hui, je dois absolument saisir ma chance. La jeune femme est revenue se baigner, et cette fois, je suis bien placé. Mais comment l'approcher ? Hélas, le héron est encore là. Au départ, j'étais ce qu'on appelle un beau gosse. C'est ce que l'on disait de moi.
Ce Kevin, c'est un beau gosse.
Ma mère, elle le disait tout le temps, à tout le monde. Très tôt, j'ai pris goût à la compagnie des filles attirées par mon physique. Elles sont gentilles, les filles. Elles vous chouchoutent. Elles vous dorlotent. Mais attention, les filles, elles vous tirent facilement les cheveux si vous oubliez de leur dire que vous les aimez. Une fois qu'on a compris comment agir, plus de problème de brushing. Des mots tendres, une fidélité de façade, un peu d'organisation, surtout ne pas confondre la fille du lundi avec celle du mardi. Et tout se passe bien. Les filles se lassent, la beauté ne fait pas tout. Alors elles vous quittent, et d'autres prennent leur place. Coralie, Marie, Delphine, Emma. Ainsi se déroulait ma vie de Don Juan. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré la belle et mystérieuse Myriam. J'avais déjà fréquenté des filles qui ne se lassent pas facilement, mais dans son cas, le record a été largement battu. Plus de 30 jours. J'ai employé tous les moyens pour me faire quitter. Indifférence, vulgarité, dédain, rien n'a fonctionné. Ce dimanche-là, Myriam m'envoie un message. « Prépare-toi, je t'emmène en promenade, je passe te prendre à 11h. » Je n'étais pas très partant. Puis je me suis dit que c'était le moment ou jamais de placer le point final à notre histoire. Je l'ai attendu en bas de mon immeuble, je suis monté dans sa voiture, on a quitté la ville, on a écouté de la musique sans un mot durant tout le trajet. Au bout d'une heure de route, elle m'a dit « On est arrivé. » En pleine campagne, au milieu de rien. Elle a garé la voiture, on est descendu et on a marché pendant une vingtaine de minutes jusqu'à une clairière avec vue sur un étang. Elle m'a dit « Voilà, on va s'arrêter là, c'est très bien. » Lorsque la nappe a été étalée, nous nous sommes assis dessus. Myriam s'est tournée vers le panier de pique-nique. Je voyais son dos, les fines bretelles de sa robe à fleurs. Du panier, elle a sorti un chapeau très moche. J'en avais déjà vu un de semblable dans les films sur Harry Potter. Elle l'a posé sur sa tête. Quand elle s'est retournée, elle tenait une baguette dans sa main. Pas celle du genre qu'on utilise pour manger des sushis ou un pad thai, non. Et son nez. Son nez, avec cette grosse verrue poilue, une horreur. Son regard furieux lançait des éclairs. Elle était transfigurée de haine. Je n'ai pu retenir un cri. Je me suis levé d'un bond et j'ai détalé comme un lapin. Au bout de quelques mètres, j'ai senti comme un coup de poing dans mon dos. Je suis tombé, frappé en pleine course. Je revois au ralenti mon téléphone quitter ma main, voler au loin. Le paysage autour de moi soudain s'agrandir, le poids de mon corps devenu mou se rétrécir et s'écraser sur l'herbe. Ces trois doigts au bout de mes bras, ce n'est pas normal. Je suis resté là sans bouger, longtemps. Soudainement, instinctivement, j'ai contracté les muscles rétracteurs de mon système hyoglos et je me suis gobé une grosse araignée. Ensuite, j'ai avalé une limace, puis je me suis endormi. Le soleil s'est levé. Je me suis apitoyé sur mon sort. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit que si je retrouvais mon portable, je pourrais interroger Google afin d'essayer de trouver une solution à mon problème. C'était stupide. Pourtant, peu de temps après, au hasard de mon exploration, je l'ai retrouvé. J'ai réussi à l'allumer. En revanche, malgré ma persévérance, je n'arrivais pas à sélectionner les icônes sur l'écran. Impossible de faire mon code d'accès. Mes doigts gluants glissaient sur le verre.
Quant à la reconnaissance faciale, j'ai fait tous les efforts possibles, imaginé tous les stratagèmes. D'énervement, j'ai gobé deux ou trois trucs qui passaient autour de moi. Ça m'a donné l'idée d'utiliser ma langue. La première fois, le téléphone y est resté collé et il a failli s'écraser contre moi. Petit à petit, j'ai réussi à maîtriser mon action, le lancer de langue au bon endroit, sans trop forcer. Le téléphone s'est déverrouillé. J'ai poussé le croassement de la victoire. Ça m'a pris des heures pour lancer le navigateur, taper les mots-clés, avant d'obtenir des réponses. Elles m'amenaient toutes vers la même solution. La mettre en œuvre ne m'apparaissait pas réaliste, mais le temps passant, je me suis fait une raison. C'était ça ou rien. Quand j'ai vu pour la première fois la baigneuse près de l'étang, l'espoir est revenu. Hélas, mes deux précédentes tentatives de rapprochement ont échoué. Aujourd'hui, la jeune femme est de retour. Je suis à quelques mètres d'elle, là, sous les grandes fleurs. Mais le héron n'est pas loin, et ce sauvage a plusieurs fois tenté de me percer la peau. Allez, un peu de courage, il faut y croire. Je ne demande pas grand-chose après tout, juste un tout petit bisou.
Diane au bain 2. Sur le tableau, une femme guette ou rêve dans son bain. La baignoire semble pleine, mais l'eau coule à flot. Derrière la fenêtre, le monde est invisible, le paysage est à l'intérieur.
Bain de Jouvencelle, une nouvelle de Muriel B, inspirée de Diane au bain 2. Diane Larose était reconnue pour ses performances de comédienne, mais aussi pour son implication dans la défense des femmes, de la protection de l'environnement et des animaux. « J'ai tant de projets, je pourrais passer la journée à vous en parler. » Elle se fichait des normes et fonctionnait à l'instinct, assumant tout. Ses formes pulpeuses, ses dérapages, ses paradoxes entre une vie luxueuse, un goût pour les vêtements de grands couturiers et son application pour les déshérités. À 30 ans, elle était l'icône de son époque. Quand on interrogeait Diane sur le secret de sa beauté, elle confiait volontiers aux journalistes « La nature, la nature ». Elle évoquait son enfance de garçon manqué au milieu des champs de lavande en Provence. Jeune, Diane passait ses journées dehors à faire du vélo ou du cheval avec ses deux frères. Dans un magazine, elle avait confié l'emploi du temps type d'une de ses journées. « Je me lève tôt, je remercie le Créateur. Je commence ma journée par un thé vert aux agrumes et quelques graines de grenade. Puis je pratique des exercices de respiration chamanique en laissant ma chevelure enveloppée dans de l'huile de jojoba. À 13h, je rejoins des amis pour un déjeuner vegan healthy, arrosé d'eau des fjords aromatisés à l'hibiscus. L'après-midi, je lis des scénarii qui me sont adressés et téléphone à mon agent. Le soir, je vais à des inaugurations ou bien je coucoune lové dans des plaids tissés par des indiennes. Diane quittait les journalistes en s'étirant féline, les bras en croix, théâtrale, elle déclamait dans une moue sensuelle. Joy, joy, the sky is blue, happiness, amour, love, love, love. Diane était irrésistible. Ce soir, enivrée, grise des promesses de la nuit, Diane, la peau veloutée, est alanguie dans un bain tiède, un verre de pommard breuvage rouge sang à la main. Soudain, elle se cambre. Ses seins iconiques gonflés par le plaisir se dressent, tels deux globes d'albâtre. Le jet puissant de l'eau la caresse en saccade. Diane reçoit les salves de la jouissance. La petite mort, la vie majuscule, à la vie, à la mort, elle chavire. Son bras lascif repose, le vin se déverse. Un voile embue les carreaux de la fenêtre. Il cache l'impudique Vénus à cette nuit aux étoiles danseuses et à la lune pleine. Bacchanale solitaire, violence charnelle, Diane offerte s'adonne au péché originel. Une brise nocturne envahit la pièce. Diane frissonne, les yeux mi-clos, les lèvres entr'ouvertes, elle commence voluptueusement à s'endormir. Des fruits défendus à portée de main, quelques oranges sanguines et des pommes juteuses. Son chien, inconditionnel, confident, est là, immobile. Lévrier majestueux, il veille sur sa maîtresse. La complainte lente, veloutée et tragique de la Cassa Diva de Bellini, sa prière à la nuit envahit la pièce. Diane n'entend pas les coups portés à sa porte. Diane, ouvrez! C'est Jean-Paul, son voisin du dessous, dont le plafond s'enfle d'une poche gorgée d'eau. Diane s'est endormie. Il fallut appeler Gianni, le serrurier, afin qu'il ouvre la porte. Médusé, il suit Jean-Paul pour découvrir Diane plongée dans les bras de Morphée, les cheveux d'un blond vénitien s'enroulant au pied de la baignoire. Alors, Diane ouvre ses yeux jusque la mi-clos et prononce dans une voix troublante cette phrase improbable. « Je suis la chasseresse des tentrices de tous les sortilèges. Le bain scandale a une formule bio-adoucissante qui laisse la peau si sensuelle. I do anything for love, and you? What did you for love ?» Diane ouvre la bouche et fait rouler entre ses lèvres une perle nacrée qui contraste avec sa bouche carmin. Gianni, en salopette à la bretelle ouverte sur un torse imberbe, se penche. De son bras, tatoué d'une énorme rose barrée d'une encre marine, il la tire, il la saisit, il l'étreint. Il vient recueillir dans un baiser charnel la perle. « Qu'est-ce que nous faisons de mal ? » dit-elle, ingénue. Le mur ocre du fond se lève et donne sur des quais brumeux. Jean-Paul, dans son iconique marinière, murmure faussement outré, malicieux. « Quel scandale !» puis éclate de rire, suivi par Diane et Gianni. À cet instant, la tête articulée du chien bascule et s'ouvre. Un mécanisme propulse un flacon métallisé orné de lettres en capitale. « Scandale !» by Jean-Paul Gaultier. « Coupé, parfait, c'est dans la boîte !» hurla le chef opérateur, tandis que son assistante s'empressait de couvrir d'un peignoir Diane qui commençait à grelotter.
Diane, seule dans son bain, de Nathalie Baraban, inspirée par le tableau Diane au bain 2 de Nathalie Salguillard. Un soir, comme elle rentrait de sa tournée quotidienne à cheval sur ses terres, quelques hectares entourant le château, elle avait poussé après le petit bois jusqu'à la grande forêt. C'est là qu'elle était tombée sur lui, bel étranger égaré, le pied pris dans un piège à gibier. Elle avait sauté à terre, s'agenouillant à côté de lui, déchirant le bas de sa tunique pour panser sa cheville ensanglantée. Elle avait ensuite aidé à se hisser sur son destrier et, prenant les rênes, avait guidé la monture au rythme de son propre pas, posant régulièrement un regard inquiet sur le blessé. Grâce aux onguents qu'elle avait préparés et patiemment appliqués sur chacune de ses plaies, le jeune éphèbe avait vite repris du poil de la bête et était devenu son alter ego, l'accompagnant à la chasse, comme dans toutes ses tâches, prenant une place qui n'avait jamais existé dans sa vie, dans son cœur. Il ne l'a quittée qu'à la nuit tombée, alors qu'elle regagnait, solitaire, sa chambre à laquelle j'étais seule autorisée jusqu'ici à accéder. Car depuis ma propre arrivée au château, je n'avais jamais quitté Diane, ma maîtresse, la suivant comme son ombre. Depuis l'arrivée du Bellâtre, j'étais devenue l'ombre de son ombre. Cela ne me plaisait pas vraiment, et cela me rendait même méfiant. Certes, le jeune homme avait les traits fins, les manières délicates, et n'était pas avare de caresses. Apparemment heureux, la douceur de son sourire ne parvenait pourtant pas à masquer l'inquiétante mélancolie qui se dégageait de son regard. Tout a dérapé il y a 2 heures à peine. Alors que Diane s'apprêtait à souffler la dernière chandelle du grand salon, le bel Adonis a effleuré son bras, l'invitant à se rasseoir à la table. Il lui a pris les mains et, tandis que les yeux de la belle se troublaient d'un fol espoir, lui a annoncé qu'il partirait dès le lendemain matin. Il ne pouvait plus attendre et devait reprendre sa quête, trouver celle qui lui lierait le cœur à jamais. Il était clair qu'elle n'avait pas Diane pour prénom. Ma maîtresse s'est levée, a soufflé la bougie et, dans un étrange sourire, a proposé « Chevauchons une dernière fois côte à côte, mon ami, faites-moi ce plaisir ». C'est ainsi qu'elle l'a menée jusqu'à la grande forêt, la même où elle l'avait trouvée, gémissant et tremblant quelque temps plus tôt. Lorsqu'elle est descendue de cheval, il l'a imitée, visiblement troublée par son comportement. La nuit était profonde, et les grattements, sifflements et autres bruits de la forêt n'avaient rien de réconfortant. Tout est allé très vite. Diane s'est retournée, a planté sa dague dans la cuisse droite de son compagnon. Sans un regard en arrière, elle a sauté sur sa monture, saisit les rênes du second cheval et lancée. « Je te laisse donc reprendre ton chemin là où tu l'avais interrompu. » J'ai vu ce pauvre empoté, sanguignolant, abandonné là au cœur de la forêt, tandis que les loups, mes frères, commençaient à hurler. Je n'ai eu aucun émoi, trop soucieux de courir assez vite pour suivre mon aimé. Cela fait maintenant une bonne heure que la lourde porte de l'entrée s'est refermée sur nous. Diane a arraché ses vêtements, attrapé une bouteille dans la cuisine, l'a ouverte et s'est versé un premier verre, le vidant d'un trait, s'en servant aussitôt un second qu'elle a bu en montant les escaliers. J'étais bien entendu toujours à ses trousses. Et lorsque nous sommes arrivés dans la salle de bain, elle s'est installée dans la baignoire. Elle enchaîne maintenant les verres tandis que l'eau coule à flot sur son corps nu. Je veille sur elle. Julia, you've set the standards for me. Walk to your door, begging for just a bit more. And Julia, I couldn't do much better than you. Said so yourself.
Sur le mont Chauve. Sur le tableau, une lune pleine, des citrouilles ricanantes, un oiseau de nuit sur la branche d'un arbre courbé, quelques fins champignons, au fond, quatre maisons flanquées de quatre tours.
La Trouille, une nouvelle d'Henri Burckhardt, inspirée par le tableau Une nuit sur le mont Chauve. Elle a trop fêté Halloween, elle en a perdu ses copines. Le soir venu, elle hallucine. Le chemin du retour n'est plus, sa maison même a disparu. Un château se dresse à sa place, tout environné de menaces. Face au regard noir du hibou qui semble lui chercher des poux, la fillette tombe à genoux et s'écorche sur les cailloux. Ce n'est qu'un petit bout de chou, seul et paumé sans son joujou, son ours baptisé Bijou. Devant elle, à perte d'espoir, comme des flammes dans le noir, luisent les rictus démoniaques de toute une armée de citrouilles qui se préparent à l'attaque. Elle est déjà morte de trouille. Les démons, jadis terrassés, de l'enfer sortent, courroucés, marrés de cucurbitacées. Elle voudrait bien crier « Assez !» Mais rien ne sort, juste elle bredouille, elle tremble, sa vue se brouille. La lune, blancheur opaline, se tait tandis qu'on l'assassine. Sur qui pourrait-elle compter pour la tirer de ce guépier? Non, il faut bien qu'elle se débrouille pour échapper aux fouilles qui grouillent. Elle fonce sur les citrouilles, les piétine, les écrabouille. Ça fait des plouches, des splafs, des houilles, des bruits de succion, de gargouille, la pulpe éclate, poisse, barbouille, elle patauge dans la gadouille. Le champ n'est plus que ratatouille, des corps morts montent une fumée, le décor tremble et disparaît. Adieu, hibou, château, citrouille, les démons sont partis, bredouille, tout cela n'était qu'une embrouille. Sa maison est là, éclairée, deux silhouettes au bout de l'allée, hurlent en agitant les bras, ouf, ce sont maman et papa. De les revoir, ses yeux se mouillent, et dans ses pleurs se noie la trouille.
Geisha 3. Sur le tableau, une femme assise, enveloppant de ses bras un globe rouge. Un enfant lui tend un ballon rouge. Derrière l'horizon, comme sorti de l'écume, un astre rouge au visage triste. Les arbres sont en fleurs.
Une nouvelle de Philippe Cote, inspiré de Geisha 3.
Quand je marche en solitaire, sans but précis, que j'ai le temps, je me laisse aller à quelques rêveries. Mon imagination me fait interpréter des situations. Ces balades me conduisent fréquemment vers des rencontres insolites qui attisent ma curiosité. Le grand et beau parc près de chez moi se révèle propice à ces déambulations. Aujourd'hui, j'y aperçois un enfant qui tend un ballon à une jeune femme. Le gamin, à 7-8 ans, est aussi blond et pâle que la femme est brune et mate. Je m'avance et je tends l'oreille. Ils ne font pas attention à moi. Ton doux et décidé du petit. « Dis, madame, si on échangeait nos ballons ?»« Pourquoi, garçon ?» répond-elle, surprise. « Parce que moi, je veux jouer avec ton ballon. Le mien est beaucoup trop léger. Je ne peux pas jouer au foot avec. Tirer, faire des passes, il n'a aucune force. Il s'envole tout de suite. En plus, il n'est pas vraiment rond, comme un vrai ballon de foot. » Elle, elle le couvre d'un regard tendre et amusé. « Et puis, ton ballon est rouge comme le mien, poursuit le blondinet. » Donc ça change rien pour toi. Mais ce n'est pas une question de couleur, mon petit gars. Ce ballon, comme tu dis, c'est un soleil, ou plutôt un morceau de soleil, que je serre bien fort sur moi afin qu'il me réchauffe le cœur. Et il est rouge comme parfois quand le soleil se couche. L'enfant ne semble pas comprendre, mais ses attitudes laissent penser qu'il n'a pas renoncé à troquer son ballon avec l'autre. Mais tu ne joues pas au foot avec, alors ? Non, avec, je lis dans l'avenir. Dans l'avenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en le pressant très fort et en me concentrant, il m'arrive de prédire ce qui va se passer plus tard. Surtout pour des petits comme toi. De tout son être, l'enfant exprime soudain un grand intérêt pour cette dame qui peut deviner des choses qui ne sont pas encore arrivées. Dis, s'il te plaît, est-ce que je serai un grand footballeur ? Est-ce que je gagnerai la Coupe du Monde ? La voyante détourne un regard vers moi qui me signifie que la réponse n'appartient qu'à eux. Puis, elle appuie fort sur son soleil, reste muette quelques instants, s'approche du garçon, lui chuchote à l'oreille. Il paraît ravi. Il est temps pour moi de m'éloigner, de ne pas gâcher leur instant, de reprendre le cours de mon chemin vers de possibles autres songes.
Les nouvelles que vous avez entendues, inspirées par les œuvres de l'artiste peintre, ont été écrites à l'atelier Instant de l'Université Permanente, un espace d'écriture de nouvelles animé par Sylvie Bauget. Nathalie Selguillard a exposé à l'Université Permanente de janvier au 14 avril 2023. Prochaine exposition, du 1er au 13 août 2023, Salle des Roches à Saint-Brévin-les-Pins.
JTFM 91.2, les ateliers des Valounais.
Réalisation technique à l'université, Frédéric Rossi. Réalisation, Sylvie Bauget. Réalisation technique et montage de l'émission, Luc Richard. Voix de l'émission, Marie-Jeanne.